Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Fattah Tiemtori.
Oméga, bonjour. À la une de l'actualité, attaque de gaz Kindé dans le Sahel. Le gouvernement évoque des complicités malheureuses qui ont livré le convoi aux terroristes. Le ministre délégué à la Défense, le général Silas Keïta, assure que des actions sont en cours pour libérer la voie et ravitailler Djibo. En politique, le bureau exécutif du MPP dissous, l'organe central du parti a pris une résolution hier dans ce sens. Un directoire sera mis en place pour l'organisation prochaine d'un congrès. Sanctions de la CEDEAO contre la Guinée, le Mali ne s'y reconnaît pas. Le gouvernement dit se désolidariser et dénonce des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines alors qu'il reçoit ce jeudi une délégation de l'institution sous-régionale. Et puis on va parler de l'évolution de la menace terroriste vers les pays du Golfe de Guinée avec notre invité du jour, Dr Eddy Guipier, chercheur ivoirien en sciences politiques, explique notamment la résilience de la Côte d'Ivoire face à la menace des groupes terroristes présents à ses frontières. On aura des détails donc dans ce journal. C'est un invité à suivre à la fin de cette édition. Madame, Monsieur, merci de nous suivre sur Radio Oméga. Bonjour, bienvenue. En politique, pour ouvrir ce journal, le MPP parti de l'ex-président Roch Kaboré, qui n'aura plus de bureau exécutif national, l'organe décisionnel central de l'ancien parti au pouvoir, a adopté hier une résolution consacrant sa propre dissolution. Selon le journal en ligne minute.bf, un directoire sera mis en place pour organiser au plus vite un congrès qui devrait consacrer la relance du parti. Ce directoire, à en croire minute.bf, sera dirigé par l'ex-président Roch Kaboré lui-même, ainsi que son camarade cofondateur du parti, Simon Compaoré. Cette décision intervient au moment où le parti connaît des vagues de démissions. Il y a une semaine, ce sont les anciens ministres Alpha Barry et Bachir Ismaël Ouédraogo qui ont quitté le navire avec 121 autres membres du bureau politique national. Pendant ce temps, le pouvoir en place ne fait pas non plus l'unanimité. Des manifestants ont tenté de se réunir ce matin, place Tiefo Amoro à Bobo-Dioulasso, pour dénoncer la gestion de la crise sécuritaire par Paul-Henri Damiba. Ces militants d'organisations de la société civile ont été empêchés ce jeudi de tenir leur marche de protestation. Tôt ce matin, aux environs de 7 heures, la place Tiefo Amoro, lieu de départ des manifestants, a été encerclée par des forces de l'ordre. Avant de sonner la mobilisation et d'arpenter les grandes artères de la ville en scandant des slogans hostiles au pouvoir, les manifestants ont contraint les commerçants du grand marché de Bobo-Dioulasso à fermer boutique. Et puis maintenant, retour sur l'attaque de gaz Kindé. Le gouvernement déplore des complicités malheureuses qui ont livré le convoi aux terroristes. Propos du ministre délégué chargé de la Défense, le général Silas Keïta, qui ne donne pas plus de détails mais promet plus d'informations lors d'un rendez-vous demain face à la presse pour donc donner plus de détails sur ces événements. En attendant, il assure que des actions sont en cours pour sécuriser la voie et ravitailler la ville de Djibo en vivre. La question de la réconciliation nationale était également au rendez-vous de la rencontre du gouvernement hier. Le Conseil des ministres, donc, qui s'est appesanti sur les dossiers de l'ex-Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, Ashkroun, reversé au ministère en charge de la réconciliation nationale pour examen. Ce sont donc des sujets abordés en Conseil des ministres. On fait le point complet avec Charles et Ibrahim Niaouni.
Une minute de silence observée à ce Conseil des ministres. Le Burkina a encore été frappé le lundi dernier à gaz Kindé. Bilan provisoire, 11 militaires tués, des blessés et une cinquantaine de civils portés disparus. Les populations sont sous le choc. L'inquiétude s'installe dans la hiérarchie militaire qui dénonce une complicité. Silas Keïta, ministre délégué chargé de la Défense nationale.
Ce convoi qui était sous escorte militaire a été attaqué à hauteur de la localité de gaz Kindé. Le bilan est sérieux avec plusieurs pertes en vie humaine sur le plan militaire, des blessés à divers niveaux, plusieurs dégâts matériels importants, très importants. Pour l'instant, nous allons nous taire sur les actions, la nature des actions qui sont en cours, puisque nous sommes en guerre. Mais je voudrais d'ores et déjà dire que cette attaque nous montre qu'il y a eu des complicités malheureuses qui ont livré ce convoi à la merci de ces hommes sans foi ni loi. Les actions sont en cours pour que la voie qui mène à Djibo soit dégagée le plus vite et que la ville de Djibo, qui est aujourd'hui donc privée de ses vivres et de ses articles divers, puisse être ravitaillée le plus vite possible.
C'est une urgence maintenant pour le ministère en charge de la réconciliation nationale de situer les responsabilités sur les fonds documentaires issus des crises sociales. Lionel Bilgo, porte-parole du gouvernement.
Suite à la cession d'activité du HCRUN, les fonds documentaires comprenant l'ensemble des dossiers en instance ont été reversés le 22 juillet 2022 au ministère en charge de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale pour suite de traitement. Parmi ces fonds documentaires, on compte 71 dossiers de pertes en vie humaine, 543 dossiers des blessés, 839 dossiers de destruction de biens individuels, 71 dossiers de destruction de biens de société, 28 679 dossiers de contentieux administratifs et 282 dossiers de contentieux fonciers urbains. Tous ces dossiers, reçus par le ministère en charge de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, seront pris en main pour parachever leur traitement.
Suite à l'attaque du convoi humanitaire en partance pour Djibo, le gouvernement burkinabé compte apporter toute la lumière sur cette affaire le vendredi 30 septembre prochain.
Un compte-rendu de Charles Da et Ibrahim Niaouné. Je rappelle que le bilan provisoire publié mardi faisait donc état de 11 soldats tués, 28 blessés et une cinquantaine de civils disparus dans cette attaque à Gaskindé, une vingtaine de kilomètres de Djibo. Dans le sommet, un rendez-vous est donné par le ministre en charge de la Défense, le ministre délégué en charge de la Défense, demain donc, pour donner plus de détails sur les événements relatifs à cette attaque. Et un autre sujet qui s'est invité à cette rencontre du gouvernement, c'est celui des incendies de dépôts de médicaments et autres consommables médicaux. Selon le ministre porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, c'est plus de 13,8 milliards de francs CFA qui sont partis en fumée dans pas moins de 15 incendies, dont certains pourraient être criminels ou même d'origine terroriste. Je vous propose de l'écouter.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a fait au Conseil une communication relative à la situation des incendies des entrepôts de stockage des produits de santé au niveau des structures sanitaires publiques et de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux CAMEG. Ces incendies, dont le nombre cumulé est passé à 15 en 2022, pourraient être imputables à trois grandes causes, à savoir celles liées aux infrastructures et aux équipements, à la gouvernance et aux actes criminels ou terroristes. Ces incendies ont entraîné des pertes considérables, avec un montant global de pertes en médicaments et consommables estimé à 13 815 931 529 francs CFA. Ces pertes ne prennent pas en compte celles liées à l'incendie de la pharmacie interne du centre hospitalier régional de Fadangourma, dont les évaluations sont toujours en cours. Cette situation aggrave les difficultés que connaissent les districts sanitaires en matière de disponibilité des produits de santé au bénéfice des populations. Le Conseil a instruit le ministre en charge du dossier de prendre les mesures idoines en vue d'améliorer les conditions de stockage des produits de santé et à réduire les risques d'incendie.
Omega, la suite de ce journal, et on parle d'un tout autre sujet, un suivi des mutuelles sociales pour un mieux-être des ménages dans l'espace UEMOA. L'idée est en réflexion depuis 2009 et le Burkina compte fixer les conditions de reconnaissance juridique, de suivi et de contrôle de ces structures et de leurs fêtières. Tel est l'objectif de la première session du comité technique de la mutuelle sociale, prévue pour durer 3 jours. Les travaux ont débuté ce mercredi à Ouagadougou, compte rendu de Rabiatou Congo avec la voix de Yaya Diomandé.
Cette rencontre de 3 jours participe à la mise en place de l'organe administratif de la mutualité sociale tel que recommandé par l'UEMOA en 2009. Cet organe devrait permettre une gestion harmonisée des mutuelles sociales dans chaque pays de l'espace UEMOA. Première du genre, au cours de cette session, le comité technique de la mutualité sociale va réfléchir sur les conditions de reconnaissance, de suivi et de contrôle des mutuelles sociales et de leurs fêtières. Carly Zango est le directeur de la protection sociale.
Nous sommes dans la dynamique de mettre en œuvre cet organe. Mais en attendant, nous avons trouvé une solution palliative pour permettre aux mutuelles d'être reconnues et de mener leur activité sur le terrain. Dans l'effectivité du fonctionnement des mutuelles sociales, Nous sommes en train de réfléchir pour voir comment est-ce que ces agréments seront donnés, comment est-ce que nous allons identifier les critères d'évaluation des mutuelles sur le terrain afin de pouvoir aller sur le terrain et accompagner les mutuelles.
Avec la mise en place de l'organe administratif de la mutualité sociale, les mutuelles pourront ainsi mobiliser suffisamment de ressources financières pour accompagner les ménages, entre autres, dans la prise en charge de leur couverture sanitaire. Carlé Zango.
La prise en charge de la santé crève le budget, les revenus des ménages. Donc, à travers ces réflexions-là, nous voudrons permettre d'avoir des mutuelles qui sont assez fonctionnelles, qui puissent mobiliser suffisamment de ressources.
À ce jour, selon le directeur général de la protection sociale, le Burkina compte environ 181 mutuelles. Les mutuelles ont pour mission d'accompagner les populations en ce qui concerne la couverture santé.
Omega, l'international, le Mali ne se reconnaît pas dans les sanctions décidées par la CEDEAO contre la Guinée. Il dit se désolidariser de ces sanctions qu'il juge illégales, illégitimes et inhumaines. Des sanctions qui impactent négativement la vie des populations guinéennes, a estimé le gouvernement malien, qui annonce dans la foulée des mesures pour assister son pays, le pays voisin, donc la Guinée. Un communiqué rendu public à la veille de la visite d'une délégation de l'institution sous-régionale à Bamako. Les chefs d'État du Togo, du Ghana et de la Gambie se rendent au Mali aujourd'hui, ce jeudi donc, après un report de 2 jours à la demande du gouvernement malien, une mission de médiation pour négocier notamment la libération des 46 soldats ivoiriens encore détenus au Mali.
La revue de presse.
Série d'interrogations dans les parutions du jour, 48 heures après l'attaque du convoi de ravitaillement de Gaskindé dans le Soum. Une attaque qui a fait, selon le gouvernement, 11 soldats tués, 28 blessés, une cinquantaine de disparus. Une énième attaque qui fait dire à nos confrères que la montée en puissance de l'armée tarde à se concrétiser sur le terrain. La revue de presse de ce jeudi est présentée par Brigitte Yoda.
L'attaque meurtrière du convoi de ravitaillement de la ville de Djibo, qui a fait plusieurs morts, des disparus et de nombreux dégâts, continue malheureusement d'alimenter les débats tant sur les réseaux sociaux, dans la presse que dans plusieurs autres milieux, commente l'Express du Faso. Le quotidien trouve curieux que le communiqué sur le bilan de l'attaque du convoi de ravitaillement en partance pour Djibo soit venu du gouvernement avec la signature de son porte-parole en lieu et place de l'état-major général des armées qui avait l'habitude de le faire. Mais pour l'Express du Faso, les Burkinabés ne posent pas les vraies questions. Au lieu de s'égosiller sur le nombre de personnes civiles et militaires tuées, les Burkinabés devraient se poser la première et principale question de savoir pourquoi c'est toujours Djibo. Pour le journal Bobolais, cette attaque traduit en termes clairs l'échec du dialogue dans cette partie du Burkina. Il pense, comme beaucoup d'observateurs le révèlent, que la religion est un alibi et que les vraies raisons de la lutte armée se trouvent ailleurs. Selon le ministre délégué à la Défense, le général Silas Keïta, il y a eu des complicités qui ont livré ce convoi, titre l'Express du Faso. Des complicités malheureuses qui ont livré ce convoi à la merci de ces hommes sans foi ni loi, affiche le pays. Le gouvernement déplore des complicités malheureuses, peut-on lire à la une de Sidoya. Des complicités malheureuses ont livré le convoi à la merci des forces du mal, aujourd'hui au Faso. Alors, mon général, s'il y a eu des complicités comme vous le dites, d'où sont-elles venues? Des militaires du 14e régiment interarmes qui escortaient le convoi? Des civils qui se rendaient à Djibo? Autant de questions que pose l'observateur Palga, qui se demande encore pourquoi les militaires qui avaient en charge la sécurité du convoi et des passagers ont-ils autorisé ces pauses prières, bien que sachant que ce sont des moments propices à une attaque. Aujourd'hui au Faso, lui espère qu'ils, les complices, seront démasqués et punis conformément à la loi. En attendant d'en savoir davantage au cours de la conférence de presse de demain vendredi, annoncée par le ministre délégué à la Défense, le quotidien estime qu'il faut fouetter l'ego des autorités politiques et militaires afin qu'elles sachent que le pays est en danger de mort. Pour le doyen des quotidiens, il faut que toutes les responsabilités soient situées et qu'on en tire les conséquences qui s'imposent. Car la montée en puissance professée de l'armée tarde à être une réalité sur le terrain, conclut le quotidien.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Notre invité du jour est Dr Eddy Guipié, chercheur ivoirien en sciences politiques. Avec lui, il est question de l'évolution de la menace terroriste vers les pays du Golfe de Guinée. Il explique notamment la résilience de la Côte d'Ivoire face à la menace des groupes terroristes présents à ses frontières. Il aborde également la question de la coopération militaire transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Entretien. Docteur Eddy Guipié, bonjour.
Bonjour, monsieur Tiemtoré.
Votre pays, la Côte d'Ivoire, est frontalier avec le Mali et le Burkina, fortement impacté par le terrorisme, avec des groupes armés qui visent désormais les pays côtiers. Comment la Côte d'Ivoire fait-elle face à cette progression?
La conflictualité terroriste se déplace depuis quelques années, depuis son foyer sahélien, vers les zones des mers chaudes du Golfe de Guinée. Et la Côte d'Ivoire, qui appartient à cet espace du Golfe de Guinée, s'en trouve bien entendu impactée. Sa réponse, bien entendu, a été une réponse à chaud et donc une réponse strictement militaire. La carte sécuritaire militaire du pays en a été remaniée avec la création d'une zone opérationnelle nord. Cette dernière est fragmentée en une zone, du moins un secteur nord-ouest, avec pour base la ville de Bundiali et un secteur nord-est avec pour base la ville de Kong. Tout cela pour se rapprocher au mieux de cette conflictualité frontalière et transfrontalière pour répondre au mieux à la menace militaire. Bien entendu, ceci ne peut se faire sans une réforme aussi du dispositif législatif et réglementaire qui a été amendé à cet effet.
Il y a eu quand même Grand Bassam, Kafolo également, mais globalement la Côte d'Ivoire semble plus résiliente que d'autres pays de la région, tels que le Bénin et le Togo. Quelle est la recette?
Le secret de la Côte d'Ivoire, si le secret il y a, se résiderait dans, on va dire, le panel de réponses que la Côte d'Ivoire met en exergue. J'ai tout à l'heure évoqué la question de la riposte militaro-centrée, mais la riposte militaire, bien qu'étant nécessaire, elle s'avère insuffisante. Les autorités ont pris la pleine mesure de ce problème-là en essayant de coller au plus près de cette conflictualité, comme je l'ai dit auparavant, en développant, n'est-ce pas, des programmes économiques et sociaux pour soulager les populations victimes de cette conflictualité terroriste-là. Vous n'êtes pas sans savoir que les terroristes, dans leur offre pour recruter, arrivaient à donner, n'est-ce pas, des sommes d'argent ou acheter des motos pour les populations. Il faut savoir que le terrorisme prospère là où il y a peu d'État, et cette réponse avec le plan, le PSGouv 2, le plan social du gouvernement 2, arrive justement pour essayer de pallier à cet effet. Donc c'est cette palette-là qui associe réponse militaire et réponse sociale et économique qui arrive, en tout cas à notre humble avis, à essayer de fixer cette menace terroriste-là pour l'endiguer, faire en sorte en tout cas, à tout le moins, qu'elle ne prospère plus.
La Côte d'Ivoire a organisé l'année dernière une opération conjointe d'envergure avec le Burkina dans la zone frontalière avec quelques résultats. Et depuis, plus rien. Comment appréciez-vous la coopération justement sur le plan militaire entre les deux pays?
Les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont au beau fixe. Elles n'ont pas été amoindries par, on va dire, l'immixion des militaires dans le champ et le jeu politique avec la junte actuellement au pouvoir. Les deux pays continuent à collaborer, échangent des informations précises et capitales quant aux groupes armés terroristes. Et comme vous l'avez dit vous-même, ça ne les empêche pas de planifier et de mettre en œuvre des opérations d'envergure. Alors on peut confirmer le fait qu'elles soient au beau fixe, ces relations-là.
On sait que la dégradation de la situation sécuritaire est souvent tributaire de l'instabilité politique. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire essaie de vaincre ses démons, mais il y a l'échéance 2025. Le pays est-il, à votre avis, à l'abri d'une nouvelle crise qui pourrait lui être fatale?
La Côte d'Ivoire est dans une phase, somme toute, assez pacifiée, n'est-ce pas, du champ politique, de l'arène politique en particulier. Il y a que les trois grands leaders se parlent pour l'instant. Ceci étant, comme vous l'avez dit, tout cela, en tout cas on l'espère, que tout cela pourra résister aux démons de la Côte d'Ivoire qui ne se manifestent que lors des joutes électorales. Pour ce faire, ce que nous pouvons préconiser, ce à quoi nous pensons, ce serait que le dialogue politique se poursuive entre les trois grands leaders politiques, élargis bien entendu à d'autres partis politiques, que les conditions liées aux questions électorales d'un point de vue législatif et réglementaire soient épurées pour que les compétitions électorales se tiennent, on va dire, dans une ambiance républicaine.
Docteur Eddy Guipier, merci.
Merci beaucoup, Monsieur Tiantoré.
Et c'est avec Dr Eddy Guipier, chercheur ivoirien en sciences politiques, que nous allons mettre fin à ce journal mis en onde par Fidel Compaoré. Je suis Abdoul Fattah Tiamtouré et nous vous remercions pour votre attention. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de Radio Omega, l'info continue. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches parce que c'est la meilleure façon de prendre soin de vous-même. Au revoir, à bientôt.
Radio Omega, l'info en direct.